Bon, on va doucement reprendre. Je vais, pendant que les derniers se mettent en place, d'abord rappeler qu'il y a une table qui est organisée avec la coopération de l'une et l'autre, et Antoine, qui est un fan de notre journée, donc que je remercie d'être présent. Et donc sur cette table, il y a des ouvrages, des personnes qui interviennent, et notamment donc Michel Zancarini Fournel a apporté des exemplaires de la revue Clio. Je vous conseille de regarder, de compulser et d'acheter. La deuxième chose que je voulais dire, avant de donner la parole à Brigitte qui me la rendra très vite, c'est que la raison d'être du Grémousse, une des raisons d'être du Grémousse, c'est de solliciter, d'encourager au versement d'archives au service public, donc archives municipales, archives départementales. Et donc, nous avions envisagé d'annoncer solennellement le versement d'un fonds qui nous intéresse beaucoup, qui est le fonds d'André Garnier. Donc, je vais vous lire rapidement la lettre que m'a envoyée Jacqueline Bory, qui est la fille aînée d'André Garnier. Je vous remercie pour votre invitation à la journée d'études organisée par le Grémousse le 29 novembre. Malheureusement, je ne peux pas y assister, n'étant pas en mesure de me libérer pour des raisons professionnelles. Pourtant, je suis fortement intéressé par le sujet de la rencontre. Dans la perspective de cette journée, nous avions envisagé que ma famille pourrait annoncer le versement des archives de mon père, André Garnier, au fonds des archives départementales de la Loire. Cette démarche est encore prématurée, ma sœur n'y étant pas prête actuellement. Cependant, à titre personnel, j'y suis tout à fait favorable, car cela aurait été certainement la volonté de mon père, qui attachait une grande importance à ses archives, qui a toujours fait preuve d'une grande vigilance pour les préserver. De plus, je trouve l'action de votre groupe de recherche et d'études tout à fait pertinente et exemplaire pour garder en mémoire la vie ouvrière et le mouvement ouvrier du bassin stéphanois. Donc voilà, ça montre aussi au passage que la gestion des archives n'est pas toujours une chose facile pour les familles. Donc, on comprend tout à fait. Je rappelle qu'il y a des procédures qui font que les gens qui versent leurs archives peuvent en rester propriétaires et en contrôler l'ouverture. Bon, voilà. Je donne la parole à Brigitte.
Oui, alors je ne la garderai pas longtemps. Je vais essayer d'être aussi draconienne que l'a été Serge Proust ce matin sur le temps, pour qu'on puisse laisser place, comme ce matin, à la discussion et au débat. Donc, le premier intervenant de cet après-midi ne se présente plus. C'est Jean-Michel Stenner. Auteur, commencé d'une thèse sur le Parti communiste. Et bon connaisseur, excellent fin connaisseur de l'histoire ouvrière du bassin stéphanois, qui va donc nous présenter la crise du bassin, enjeu des campagnes municipales à Saint-Étienne entre 1965 et 1983. Mais là, il y a un point d'interrogation.
Merci. Bien, le 22 novembre 2013, France Inter diffuse en direct de Saint-Étienne plusieurs de ses émissions. Préparée à grand renfort d'annonces répétées durant toute la semaine, l'opération vise à évaluer la transformation d'un bassin blessé par la désindustrialisation. Dans son objectif de présenter, je cite Patrick Cohen, une ville qui a essuyé une période noire et qui semble renaître, la station a invité deux figures bien connues de ce renouveau, Bernard Lavilliers et Hervé Révélis. Faut-il que cette ville soit à ce point figée dans son passé pour que des journalistes nationaux n'arrivent à l'imaginer qu'à travers les lunettes de ses gloires anciennes? Depuis un demi-siècle, les hommes politiques locaux se débattent et se combattent sur le thème de la crise du bassin stéphanois et sur les remèdes possibles. Les mots de récession et de licenciement sont présents dans le débat avant 1973 et même avant 1968. Un malaise économique court au moins depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, souterrainement d'abord, mais de façon de plus en plus évidente au milieu des années 60. L'activité de plusieurs branches de l'industrie traditionnelle du bassin s'est réduite soit sous l'effet de décisions qui échappent au pouvoir local, charbonnage, sidérurgie, soit à la suite d'erreurs manifestes de dirigeants d'entreprises qui ont mal anticipé les mutations du moment, industrie du cycle, et du textile. Dans le cadre chronologique fixé, 4 campagnes municipales ont été autant d'occasions d'évoquer cette situation de l'économie stéphanoise. 1965 représente sans doute la fin d'une époque. Depuis 2 ans, on sent les premiers craquements sérieux dans l'économie stéphanoise, alors que le pays est en pleine période dite des Trente Glorieuses. On a vu la fermeture de la SFAC et quelque chose qui est moins retenu, c'est quand même la fin de l'indépendance de la presse stéphanoise en septembre 1963. Un mouvement social qui retrouve une certaine puissance après le coup de massue qui a représenté l'échec des grèves de 1947 et 1948 et qui redémarre visiblement après la grève des mineurs de 1963. Enfin, c'est aussi l'incertitude sur l'avenir politique de la ville avec la disparition d'une grande figure, Alexandre de Fraissinette. Quant à 1983, il s'agit aussi de la fin d'une époque. C'est le moment où la ville a pris conscience que la crise est maintenant une évidence, que disparaissent à cette époque les plus beaux fleurons de l'économie stéphanoise, ce qui est largement médiatisé par le cas de Manu France. C'est aussi la fin de l'ère du Rafour, qui renonce à se présenter contre son vainqueur de 1977 et s'associe à son adversaire historique Lucien Neuwirth pour patronner la candidature de son ancien premier adjoint François Dubonchet. C'est enfin l'expérience d'une action municipale de gauche unie et aussi les interrogations sur celle du gouvernement. Je vais donc un petit peu déroger à l'esprit général de cette journée en faisant un petit peu d'histoire politique. Tant pis pour les anciens, parce qu'il y en a beaucoup qui ont connu cette période, mais je vais quand même brosser un petit peu un tableau de la vie politique ou en tout cas des personnages qui comptent avant d'explorer un petit peu les campagnes. Alors le paysage politique, donc, il est bien sûr marqué par l'héritage d'Alexandre de Fraissinette. Depuis 1947, la ville est dirigée par une alliance qu'on pourrait qualifier d'hétéroclite, conclue au lendemain de chaque scrutin, renouée au lendemain de chaque scrutin, et qui associe le Parti socialiste et ses filiaux, les radicaux, les chrétiens du MRP et les indépendants du CNI. C'est une sorte de mise en œuvre locale de la troisième force, avec quand même une nuance importante, qu'elle intègre des gaullistes, et ce, dès le début du RPF, non pas bien avant 1952. Si les frontières ont pu bouger, la tête en est demeurée Alexandre de Fraissinette, figure unique dans l'histoire locale, par sa capacité à réunir des majorités étonnantes et à capter de larges sympathies. En raison de l'application depuis la libération du suffrage proportionnel, le conseil municipal comprend toujours une forte minorité communiste, de l'ordre d'un tiers environ. Présence qui explique en ces temps de guerre froide la pérennité de l'alliance que je viens d'évoquer. Le maire, donc ancien avocat, a été le défenseur des syndicalistes victimes de la répression patronale, grève de Manu France en 1937, grève générale du 30 novembre 1938, ce qui lui a valu d'être étroitement surveillé durant la guerre, puis déporté à Mauthausen. C'est un passé qui inspire le respect, voire l'admiration dans les milieux CGT et PCF et qui contribue sans doute à sa popularité. Les 3 mandats d'Alexandre de Fraissinette, deuxième point que je voudrais développer ici, correspondent à une activité municipale intense destinée à rattraper le retard accumulé depuis les années 1880 dans les domaines de l'urbanisme, du logement ou des infrastructures, sans que la question du devenir de l'économie locale soit vraiment posée. Quand il s'achève, en 1964, 2 événements représentent le début de mon propos plus direct. D'abord, la mort d'Alexandre de Fraissinette, le 10 décembre 1964, qui pose de fait la question de son successeur. On va voir qu'elle n'est pas simple. Et ensuite, l'autre élément important, l'instauration quelques mois auparavant, le 27 juin 1964, du scrutin majoritaire à 2 tours, l'électeur ne pouvant désormais plus voter que pour une liste complète, sans adjonction, suppression de nom ou modification de l'ordre. La liste arrivée en tête, à la majorité absolue au premier tour ou à la majorité relative au second, en portant tous les sièges. C'est donc la fin des alliances, post-scrutin et l'obligation de trouver un chef de file. L'élection de 1965, c'est la mise en place d'un nouveau paysage politique. Et ce qui est assez étonnant dans cette élection, c'est qu'elle voit s'affronter 4 membre de l'ancien conseil municipal. Quatre figures qui représentent une palette un petit peu particulière de notre vie politique. Celle de Rémi Agninot, d'abord, associé au maire défunt depuis 1948. Il a dirigé le bureau d'hygiène, a été un défenseur actif de la création d'une université à Saint-Étienne, seule grande ville de France à en être dépourvue dans les années 50. Il s'inscrit dans la continuité du maire défunt, affirmant vouloir, je cite, « poursuivre l'œuvre de reconstruction et de rénovation entreprise depuis la Libération ». Et cette œuvre, il la poursuit aussi en constituant une liste dans laquelle on trouve des socialistes, des MRP, des radicaux et des CNI. Le deuxième personnage, Lucien Neuwirth, a été également associé à Alexandre de Freycinet depuis 1947. Et il est devenu très proche de lui lorsqu'en 1953, le maire sortant a affronté la fronde de deux dissidents du RPF, à savoir Jean Neuchet et Michel Durafour. Mais en 1959, c'est lui qui est devenu dissident et qui a présenté sa propre liste contre le maire. À cette date, bien sûr, il est devenu, vous le savez, un des piliers du nouveau régime dans la région, élu député UNR en 1958, réélu en 1962. Il apparaît comme le représentant du pouvoir et de sa politique. Le troisième personnage, c'est Michel Durafour, premier adjoint durant le mandat 47-53, qui a tenté de déboulonner Alexandre de Freycinet en 1953, qui s'est réconcilié avec le maire en 1959 et qui est donc devenu premier adjoint. Et il va, d'une certaine façon, profiter du décès d'Alexandre de Freycinet, puisque en tant que premier adjoint, à quelques mois des élections prévues pour mars 1965, eh bien, le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, lui donne pour mission d'assurer l'intérim jusqu'aux élections, et il va largement en user pendant la campagne. Enfin, la quatrième figure, Michel Aulagnier, un des dirigeants de la fédération communiste depuis 1953, c'est le dirigeant de l'opposition communiste au conseil municipal. Et en 1965, il a réussi à bâtir une liste d'union, non pas avec le PS, mais avec le PSU, Huguette Bouchardot, Marcel Pierre, André Garnier et Pierre Gallon, qui étaient avec nous ce matin. Et cerise sur les gâteaux, si je puis dire, pour les gens qui s'intéressent un peu à l'histoire du Parti communiste, il a intégré Claudius Buard, ancien premier adjoint du maire de la Libération, qu'il avait contribué à faire mettre sous la touche en 1953. Alors, les facteurs d'évolution de la période, je les rappelle rapidement, mais on en a vu plusieurs ce matin. Bon, bien sûr, pendant toute la période qui m'intéresse, il y a les retombées des événements de 68, la conclusion du pacte de programme commun en 72, la rénovation du Parti socialiste entre le congrès d'Épinay et les assises du socialisme, qui est traduite par un rééquilibrage des résultats entre Parti communiste et Parti socialiste, l'unification de la droite non-gaulliste avec la création de l'UDF en 76, les aléas du mouvement gaulliste, la victoire de François Mitterrand aux élections présidentielles de 81, et enfin la montée des déceptions et des oppositions à la politique de son septennat qui se concrétise par les échecs électoraux lors des municipales de 1983. Bien sûr, je n'ai pas le temps de développer tout ça, et c'est juste l'arrière-plan que je voulais mentionner ici. Alors, comment sont abordées les questions économiques et plutôt la question de la crise dans les campagnes électorales? À vrai dire, c'est assez minime quand on regarde les professions de foi. Les différents aspects de la gestion de la commune, les écoles, l'approvisionnement, l'eau et la couverture du furan tiennent beaucoup plus de place dans les débats. Ou par exemple, si je remonte un petit peu en arrière, en 1959, il y a un des points de la profession de foi du Parti communiste qui réclame l'interdiction du transport du charbon dans les rues parce que ça crée trop de poussière. L'état des trottoirs, enfin voilà, c'est des choses qui sont quand même, qui tiennent la majorité des professions de foi. La perception d'une économie en crise est plus ou moins nette selon les campagnes, la conjoncture ou la position du candidat. Alors, pour les quatre campagnes qui m'intéressent, je dirais que c'est dès la campagne de 65, elle est quand même présente. Agninot, par exemple, dit qu'il convient d'écarter la menace de la récession et du chômage. Durafour emploie aussi ce mot de chômage. tandis que Michel Ollanier revient sur les récents licenciements de l'ASFAC pour les attribuer à la politique antisociale du pouvoir gaulliste. Et évidemment, Lucien de Wirth, qui endosse cette politique gaulliste, lui se limite à des formules assez vagues du genre « il faut investir pour permettre à nos industries de se développer ». 71 est une année où la situation est a posteriori. Quand on lit par exemple certains travaux qui ont été faits par le Crésal, justement, la plus favorable de toute la période. Les mots de crise, chômage, licenciement n'apparaissent pas dans les professions de foi. C'est plutôt à l'intérieur de la gauche qu'il y a des choses intéressantes à noter. Le PC, allié au PS cette fois-ci, s'engage à favoriser le renouveau économique, mais en réclamant une planification démocratique que seule une gauche au pouvoir pourrait mettre en œuvre. Quant au PSU, il propose d'agir en faveur du développement économique de la cité et place comme priorité la dénonciation du système économique responsable de la dégradation de la vie urbaine, conséquence de la loi du profit maximum. On sent le langage post-68 là, le marxiste qui revient en force. Et curieusement, Durafour et Neuwirth sont assez d'accord, alors qu'ils sont opposés, encore une fois, avec deux listes différentes. Et ils sont assez d'accord pour annoncer qu'ils vont créer 15 000 emplois, sans autre précision. En 77, le maire sortant, Durafour, donc élu en 65, réélu en 71, ministre du gouvernement Barre, est fragilisé par la brusque montée du chômage. Et la liste de l'Union de la gauche en profite, d'ailleurs, pour retourner le label de la liste du maire sortant, qui s'intitulait « Mieux vivre à Saint-Étienne ». La gauche pose cette question « Peut-on mieux vivre à Saint-Étienne sans emploi ?» On sait comme la campagne a été dramatisée par la situation de l'entreprise Manif France. L'équipe PCPS et son nouveau chef de file, Joseph Sangdols, ex-secrétaire général de l'UDCGT, appellent à défendre et rénover le potentiel industriel stéphanois. Pour trouver le mot « crise », il faut aller chercher la profession de foi d'une liste d'extrême-gauche, lutte ouvrière LCR, qui met en cause le plan Barre qui consiste à faire payer la crise aux travailleurs. Oui. Quant à 1983, année de la revanche, c'est bien sur un ton beaucoup plus alarmiste, puisque l'on voit Dubanchet, principal challenger du maire sortant, soutenu par l'UDF et l'URPR, déclarer « Nous ne supportons pas de voir Saint-Étienne dépérir. La question du chômage est devenue centrale. Dubanchet parle d'hémorragie et Grossman parle d'expérience catastrophique. » Donc il y a bien sûr des arrière-plans, des arrière-pensées politiciennes. Alors sur le plan plus pratique, je dirais que, et ce sera mon dernier point, il y a trois types de solutions que l'on peut dégager des professions de foi. D'abord, les propositions techniques qui portent surtout sur les infrastructures et pointent le retard de la région stéphanoise. Donc la question de l'autoroute, du logement, de l'enseignement supérieur et technique, et puis la question de l'organisation de la région. Il faut créer une région stéphanoise. En 1965, Durafour aborde déjà cette question. Et il dit, pour dénoncer la politique gaulliste, le gouvernement relègue Saint-Étienne au rôle de banlieue de Lyon et affirme que tout se passe comme si on envisageait en haut lieu d'envoyer les Stéphanois travailler à Lyon, ce qui est déjà un pinsum, mais pire encore, Vénissieux ou Saint-Fons. En 83, la dissidente gaulliste Martine Victoire proclame que les Stéphanois doivent reprendre leur destin en main et ne plus être satellisés par Paris et Lyon. Deuxième type de proposition, les propositions stratégiques qui sont surtout relatives à l'industrialisation. Et là, on est bien obligé de constater qu'il y a en gros tous les candidats qui reviennent en permanence sur le thème expansion des industries traditionnelles. En 71, Michel Durafour propose la création d'un centre artisanal correspondant à l'une des vocations de la métropole stéphanoise. Neuwirth prône une industrialisation bien conduite. Et il faut chercher plutôt du côté d'André Garnier pour trouver des propositions de la gauche, notamment en 65 et en 71, pour trouver des choses un petit peu plus, comment dirais-je, pensées et réfléchies. Il y a sans doute ici, quelque part, Quand en 1965, je vais quand même m'arrêter sur ce point, la liste PC-PSU prône l'installation de nouvelles industries orientées vers les productions clés de l'économie moderne, en ajoutant « le conseil municipal ne doit pas reculer devant les oppositions du patronat local », il y a quelque chose qui me semble renvoyer à une vieille histoire qui est celle de l'implantation de l'usine d'aviation en 1929 et de l'échec de cette implantation qui a sans doute laissé des traces à la fois dans le patronat et aussi dans la main-d'œuvre ouvrière stéphanoise, mais je n'ai pas le temps de développer plus profondément. Quant aux propositions tactiques, elles concernent surtout l'utilisation l'appui que peuvent apporter les organisations syndicales à l'action de la municipalité. Là aussi, il y a une tradition qui ressurgit et que l'on voit notamment à l'œuvre pendant la municipalité de Joseph Sangdols avec les grandes manifestations de soutien que l'on a évoquées ce matin. Donc si le thème de la crise industrielle du bassin stéphanois est bien présent dans le débat lors des différentes campagnes, si la prise de conscience est réelle chez les hommes politiques, l'unanimité est loin d'être acquise quand il s'agit d'identifier les causes et les responsabilités. Et les hommes politiques stéphanois, je pense qu'on peut dire qu'ils ont manqué d'audace et d'initiative. Les solutions envisagées et mises en œuvre sont souvent limitées à des réponses techniques qui n'ont pas vraiment empêché, on l'a vu, l'aggravation de la situation. Peut-être a-t-on attendu trop longtemps avant de les imposer, on l'a vu par exemple pour l'installation de l'enseignement supérieur, contribuant par le retard pris à forger l'image d'une région en panne d'innovation. Voilà, merci.
Merci. C'est parfait.
C'est vrai ?
Ah, oh, parfait, à la minute. Bien, alors si Georges Gay veut bien nous rejoindre...